Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Il y a comme deux questions ce matin. À partir de cette étude de l'Institut de la statistique du Québec qui tend à démontrer que les patrons et les travailleurs vont devoir consacrer plus d'heures au travail en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, la première question, c'est est-ce qu'ils vont devoir travailler plus? Puis la deuxième question, est-ce qu'ils vont travailler plus? Ou s'ils vont s'agréer leur camp parce qu'on leur demande de travailler plus? Luc?
Ben, ça me semble être non à, aux deux. Ils vont pas travailler plus. Puis oui, ils vont se magasiner notre job. Mais est-ce que ça révèle? Ça, c'est une enquête canadienne. Ça s'appelle l'enquête canadienne sur le comportement des entreprises. La situation des entreprises. Ça dit qu'il n'y a plus d'autre solution. Donc, si les entreprises veulent maintenir leur croissance ou leur production, ils auraient pu, dans d'autres circonstances, dire, ben, on va augmenter la productivité, on va faire des achats, on va réorganiser notre organigramme, et on va rappeler des employés, on va augmenter la productivité, l'efficacité grâce à des processus de ISO, etc., etc. C'est ce qu'on aurait répondu dans les années passées. Et là, ils disent non, notre seule solution, c'est d'augmenter le temps de travail. Ça veut dire qu'ils sont au bout du rouleau. Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. C'est comme quand le GIEC dit, vous savez, pour maintenir à 2,7 degrés la hausse du climat, il faut réduire de 40 % la production d'ici 10 ans. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Ça veut dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'on est arrivé au bout de toutes les solutions. Et c'est pas juste ça. Les dirigeants, les employés considèrent aussi que il va se passer, même s'ils font ça, il va avoir des ralentissements de croissance, une hausse significative des salaires, une embauche de candidats moins qualifiés, des retards dans l'exécution des commandes. Et on pourrait ajouter, quand il s'agit des restaurants ou du service à la clientèle, des jours de fermeture, des files d'attente, un service à la clientèle à volo, quand on pense par exemple aux compagnies aériennes. Puis quand on embauche des mauvais employés, il se passe quoi? Ben, il se passe du magasinage de postes, de magasinage d'heures, des fausses heures travaillées à la maison, tout ce qui accompagne l'obligation d'embaucher des employés qui sont non motivés, puis qui sont non efficaces, puis qui avaient été refusés ou rejetés par d'autres entreprises. Donc, c'est très sombre comme portrait.
Mais ce que ces données démontrent, c'est qu'on parle de 50 % des entreprises qui sont touchées par au Québec, là, qui sont touchées au privé, qui sont touchées par cette pénurie de travailleurs qui doivent effectivement, comme solution à court terme, envisager de travailler un plus grand nombre d'heures. Mais là, on parle du secteur privé, mais dans le secteur public, c'est 100 % des secteurs publics qui sont touchés par cette façon de faire. Tu te demandais, Paul, est-ce que c'est une solution à long terme? Non, c'est pas une solution parce que, tu sais, c'est comme t'as un tuyau, là, un problème de plomberie, là. Tu peux bien colmater ton tuyau, mais éventuellement, il va falloir que tu songes peut-être à le changer. Alors, c'est pas une solution à long terme. Pourquoi? Parce que tout d'abord, tes employés s'essoufflent. Et deuxièmement, tu peux pas avoir un problème structurel d'une solution temporaire. Et moi, je pense que la première chose qui doit être faite, là, c'est de chouchouter vos employés. Si vous êtes un entrepreneur, là, les employés que vous avez, il faut vous en occuper comme si c'était la prunelle de vos yeux. Il y a des employeurs déjà qui le font. D'ailleurs, il y a déjà le rapport de force lié à la pénurie de travailleurs qui avantage les employés. C'est déjà matérialisé par une augmentation substantielle de salaire au Québec qui dépasse l'inflation. Augmentation moyenne de 8, un peu plus de 8 % alors qu'au Canada, c'est 5,2 % Fait qu'il y a déjà des employeurs qui disent, écoutez, je n'ai d'autre choix que d'augmenter le salaire de mes employés si je veux les garder, un. Et les employés, eux, ben, évidemment, ils disent, si tu veux me garder, ben, va falloir que t'améliores mes conditions. Ça, c'est à court terme. Mais à long terme, sachant que la population active diminue depuis le début des années 2000, puis le phénomène est mondial, faut-il le rappeler. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a la requalification, il y a l'immigration, il y a l'automatisation. Mais moi, je me dis, je lance une idée ce matin comme ça, là. Pourquoi on ne lancerait pas une espèce d'une opération de vaste bébé-boom au Québec? Avez-vous remarqué que il y a de plus en plus de femmes qui sont enceintes? Je sais pas si c'est moi qui rêve, mais je vois beaucoup de femmes qui sont enceintes. Je me dis, est-ce que le Québec, effectivement, s'emploie à faire davantage d'enfants? Ça serait une excellente nouvelle. Mais il y a une certaine époque où on a mis en place des mesures extrêmement agressives pour que les Québécoises et les Québécois aient davantage d'enfants. Parce que on sait que la population du Québec est vieillissante. On sait également qu'il y a de plus en plus d'aînés qui se retrouvent sur le marché du travail. Fait que donc, on fait plus de bébés. Puis, on a une fiscalité qui est mieux adaptée, je le répète.
À la réembauche des personnes à la retraite.
Oui, puis c'est pas juste les crédits d'impôt, là, parce qu'il semblerait que la solution repose sur les crédits d'impôt. Non, 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 non. Temps supplémentaire. Est-ce qu'on devrait continuer de payer de la régie des rentes à partir de 65 ans? Est-ce que effectivement on peut avoir une fiscalité qui est plus adaptée justement au fait que nos retraités décident de retourner ou de prolonger leur carrière sur le marché du travail?
Christiane Germain des Hôtels Germain disait ce matin que bon, oui, là, il faut prendre soin puis ça donne rien de les faire travailler comme des damnés là. Mais elle dit, on va se retrouver avec quoi? Rapidement, là, des restos qui ont moins d'heures d'ouverture, avec un menu plus limité. Et probablement, elle parlait de l'hôtellerie, où on va arriver, puis ça, ton inscription va se faire par un clavier, comme pour les billets d'avion. Autrement dit, la réception...
Oui, mais ça, Paul, on appelle ça l'adaptation.
Oui. Oui. Non, mais c'est ça. Puis je voyais Couche-Tard qui dit qu'ils vont ajouter des caisses où les gens vont eux-mêmes se servir, là. Ça va être beaucoup ça, les premières réponses, je pense. Là.
Oui, absolument. Tu as tout à fait raison.
Oui, mais ça, c'est sûr qu'au niveau individuel de chaque entreprise, ça va être ça. Puis il faut s'attendre à ça, là, des diminutions de qualité de service, puis des diminutions de...
À donner l'exemple, je m'en souviens du restaurant. Tu t'assois, tu n'as pas de serveur, tu commandes à partir d'une application, puis c'est quelqu'un qui part de la cuisine qui t'apporte ton assiette. On n'est pas dans le service hyper chaleureux et personnalisé.
Tu vas aller dans un restaurant japonais où c'est un
robot,
c'est un rail. C'est un rail, puis les plats, ils défilent sur le rail.
Non, c'est pas
mais tu as même des robots là qui viennent.
Ah oui?
Oui, okay. Tout à fait, qui viennent. Bon, je ne sais pas si tu peux laisser du pourboire au robot, mais je pense bien que oui. Là. Ah. Mais on vit dans un monde qui est en complète transformation. Et moi... Et puis Luc et Paul, vous me contredirez là, peut-être si j'ai tort, mais je pense que c'est le plus grand défi auquel notre société est confrontée. Au-delà des changements climatiques, on s'entend, c'est celui de la réorganisation du marché du travail qui a un impact dans nos vies. Ça touche les services publics. Alors, comment on arrive dans le fond? Il faut arrêter d'espérer là, qu'il va y avoir de la main-d'œuvre de disponible dans 5 ans ou dans 3 ans, ou même à court terme. Alors, peut-on faire plus avec mieux? Peut-on faire autrement?
Je t'entends là sur le baby boom, le retour des personnes âgées au travail, la robotisation, Paul, etc. Mais il y a une solution qui est devant nous, là, qui est ralentir la croissance. C'est que je comprends pas qu'elle soit pas évoquée.
Elle est déjà ralentie. Ben, c'est-à-dire, OK.
En fait, elle va ralentir toute seule. Oui, parce que comme tu le disais dans tes statistiques, t'as une augmentation du coût de la main-d'œuvre, t'as une diminution de la productivité. Les deux ensemble, ça fait quoi? Ça fait que ça peut pas durer. C'est-à-dire que ça veut dire on a les conditions sur la table pour qu'on ait une inflation durable. Donc, une inflation dont on ne voit pas la fin. Alors, ça va nécessairement amener une baisse de la croissance puisque le prix de toutes les denrées, de restaurants, l'hôtel, l'avion, etc., les services aussi, va augmenter. Moi, j'aurais bien aimé mieux qu'on la planifie, cette décroissance-là, plutôt qu'elle nous saute dans la face sous la forme de file d'attente, puis sous la forme de manque de service, qu'on la planifie. C'est-à-dire qu'on se dise, il y a des secteurs de l'économie pour lesquels on doit ralentir, libérer des employés dans des entreprises qui sont, moi, je pense que, par exemple, je pense toujours à la déforestation. Est-ce qu'on peut diminuer la cueillette de bois au Québec, libérer des employés pour d'autres travaux? Est-ce qu'on peut diminuer la production d'aluminium? Et si on fait ça, on va servir à la fois l'économie et l'environnement.
Un, c'est plus facile à dire qu'à faire. Deuxièmement, concrètement, soyons concrets, pragmatiques, il y a des employés qui végètent dans les centres de vaccination actuellement. Là. Pourquoi on ne les envoie pas dans le réseau de la santé? Là? Qu'est-ce qu'on attend? Là? Qu'est-ce qu'on attend? Que ça fasse la file avec le nouveau vaccin là, qui est adapté au Omicron? Ça, c'est un exemple très, très concret. Mais moi, je trouve que Luc, tes solutions, là, ça ressemble plus à un slogan politique parce que...
Mais toi, ta solution, c'est le baby boom. Fait que je peux te dire qu'il y a un écart... Il y a 18 ans d'écart entre la solution puis son effet
non.
réel.
C'est parce que tu parles de planifier. Moi, je suis dans la planification à long terme. Mais à court terme, ce que je te dis, c'est qu'il va quand même y avoir... Les entreprises sont déjà limitées dans leur capacité de croître compte tenu de tout ce qu'on a dit ce matin.
Pause au retour. Est-ce qu'une présumée victime d'agression sexuelle peut garder son identité protégée dans le cadre d'une poursuite en diffamation? Le tribunal a dit oui. On va en discuter après ceci.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, il y a une cause en diffamation qui sera débattue en justice. Un jeune humoriste qui a été pointé par une jeune femme dans toute cette vague qu'on a vue l'été où il y a des dénonciations qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, dont Facebook. Alors, il poursuit la jeune femme qui l'a accusée en disant « D'abord, c'est pas vrai et vous avez nui à ma réputation. » Et le débat s'est fait. Est-ce qu'on garde son identité cachée? Et le tribunal, la cour d'appel a décidé que oui, qu'une présumée victime d'agression sexuelle, quand on calcule les avantages et les inconvénients, on peut maintenir son identité cachée et on verra par la suite ce qui va se produire devant la cour. Nathalie.
Ben, est-ce que c'est une victoire pour les victimes? On peut se le demander. La réponse, c'est oui. L'homme en question, c'est l'humoriste Alexandre Douville qui poursuit trois femmes pour 120 000 $ en diffamation. La cause est très, très intéressante. Probablement que c'est un cas de jurisprudence. Et moi, j'ai ma pensée a beaucoup évolué là-dessus parce que je me suis indignée ici au micro avec Luc par rapport à la page Dis son nom. Ils ont publié 1000 et la page est toujours disponible, toujours accessible. 1380 noms publiés de potentiels abuseurs, harceleurs. Et Alexandre Douville, qui se retrouve sur cette liste, dit, écoutez un instant, c'est complètement faux ce que vous affirmez. Fait que moi, je vous poursuis en diffamation et j'exige que le nom de la victime soit connu. Alors, c'est monté, évidemment, c'est allé devant les tribunaux et la Cour, effectivement, a autorisé que son nom soit préservé sous prétexte de la protection de la vie privée. En fait, la Cour a estimé que le droit à la dignité d'une personne pour justifier son anonymat est plus fort et plus important que le principe qui veut que tous les débats de la Cour soient rendus publics. Parce que on le sait, là, devant tout ce qui est dit devant un tribunal doit être rendu public, à quelques exceptions près, quand vient le temps, par exemple, de mettre sous scellé certains documents. Mais là, la Cour s'appuyant, je pense que c'est la Cour d'appel, s'appuyant sur un arrêt de la Cour suprême, a dit un instant, compte tenu du préjudice qu'a vécu cette présumée victime, il vaut mieux effectivement protéger son identité parce qu'elle a droit à la dignité.
C'est sûr que d'évoquer dans le cadre du jugement des faits liés à sa vie sexuelle ça peut pas être positif pour elle, là. C'est évident que parce que c'est une relation, c'était pas une agression sur le coin de la rue, là, c'est une relation, donc lui va évoquer des consentements, il va évoquer des initiatives qui auraient été prises par la présumée victime. Alors évidemment, ça va salir sa réputation. Donc, je comprends la décision du juge, mais je me semble qu'elle est caduque. C'est-à-dire que je fais appel à vos talents de juriste, là, puis si jamais il y a des juristes en ligne qui nous écrivent,
on ne devrait pas être ramassé par le barreau. Alors, on va s'abstenir de donner des conseils légaux.
on signale au barreau qu'on nous sommes des amateurs tentant de résoudre un problème, de ne pas nous accuser, de ne pas avoir de payer notre contribution au barreau. Dans la cause de Jean-François Marquis contre la liste de Dis son nom, il a gagné en cour supérieure et en cour d'appel. Dorénavant, une personne qui accuse doit révéler à la personne accusée son nom. Donc, les personnes savent qui les a accusés. Fait que, c'est sûr que si tu les poursuis en diffamation, là, tu rentres dans un processus légal encadré. Mais avant de rentrer dans le processus légal encadré, là, t'es hors processus légal. Elles t'ont simplement dénoncé publiquement. Toi, tu peux te défendre de cette dénonciation-là publiquement. Tu peux juste dire, Madame Machin, vous m'avez dénoncé, c'est faux, c'est vous qui avez initié les rencontres, etc., etc. J'ai toutes les preuves, puis on s'en va en cours pour en discuter. Fait que t'as une fenêtre, là, avant d'entrer en cours pour l'accuser de diffamation, t'as une fenêtre pour dire tout simplement, voici le nom de la personne qui m'a accusé, puis voici pourquoi elle a tort.
Mais
est-ce que je me trompe?
Mais compréhension des choses, c'est lorsque tu es au criminel pour un procès de cette nature-là, la personne qui est victime d'une agression sexuelle, elle, elle peut, la cour peut préserver son identité. Le nom de la victime est souvent...
Les victimes, c'est automatique.
Bon, ça, c'est automatique. Tu vois, tu le confirmes. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un procès au civil, OK, dans ce cas-ci, il s'agit de poursuites pour diffamation. Moi, je trouve que là, la nouveauté, elle est là. C'est pour ça que je parlais de jurisprudence. Peut-être que je me trompe. Là, tu l'as dit, Luc, on n'est pas avocat, mais on essaie du mieux possible de comprendre ce qui se passe. Alors là, la cour décide que, écoutez, normalement, dans le cadre d'un procès civil, je pense que compte tenu que les débats à la cour doivent être rendus publics, on aurait dû connaître le nom de cette présumée victime. D'ailleurs, c'était la prétention du poursuivant Alexandre Douville qui dit, ben, attends une minute, là, toi, t'as sali ma réputation sur Facebook, ben, moi, j'ai le droit de savoir, le public a le droit de savoir qui tu es. Mmh. La cour dit, un instant, c'est pas si simple que ça, parce que le traumatisme vécu par cette victime, par rapport aux allégations d'inconduite et tout ça, d'agression, exacerbée par le fait qu'elle est poursuivie en diffamation, ben là, elle a dit, moi, là, elle a sombré dans une période de dépression, etc., etc. Fait que la cour dit, t'as droit à la dignité, on a droit de protéger ta vie privée, et tout ça, même si, en principe, tout ce qui se dit en cour doit être public. Moi, je trouve que ça, c'est un changement par rapport à ce à quoi on est habitué généralement lorsqu'il s'agit de poursuites au civil. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est une victoire pour les victimes.
Mais moi, j'ai pas besoin de savoir son nom publiquement, dans le sens où si elle accuse cet humoriste, que lui au moins sache qui l'accuse, ça, c'est comme le minimum, pour essayer après ça de dire, ben là, je vais te poursuivre en diffamation si tu retires pas ce que tu as dit. Mais dans le cadre du procès, je trouve que la cour d'appel a raison, c'est-à-dire que ça devient pas un enjeu, que son nom soit connu ou pas.
Mais attends,
à ce stade-là.
Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce bout-là, mais il y a un autre bout qui nous échappe, je trouve, c'est que il y a des gens qui sont malfaisants. Il y a eu sur cette liste-là des hommes qui ont été accusés par d'autres hommes avec qui ils étaient même pas en lien d'aucune façon, là, mais qui prenaient la parole au nom de femmes qui leur avaient fait des révélations. Dans le but, est-ce que c'était dans le but, il y en a qui disent dans le but de défendre ces femmes-là, d'autres disent c'était dans le but de nuire à une personne. Si tu sais que ton nom peut être rendu public, peut-être que tu le feras pas. Je parle pas des gens qui sont des vraies victimes.
Ouais,
je
mais les vraies victimes aussi, peut-être si le nom est public, qui voudront pas s'étirer le cou.
Ben, il y a ça.
Ouais, parce que, en fond, faut se rappeler à quel point c'est facile de se faire justice sur les réseaux sociaux, mais le fond de l'affaire est pas encore entendu, là.
Non.
On s'entend. Lui, il poursuit pour 120 000 $. Est-ce qu'il aura raison ou pas? Parce qu'il poursuit la présumée victime et les deux autres personnes qui, elles, ont géré cette page Facebook.
Mais moi, je rappelle que là, depuis le jugement de mai 2022 de la Cour d'appel, toute personne qui fait une dénonciation anonyme est obligée de livrer son nom à l'accusé. Fait que l'accusé peut faire ce qu'il veut avec ce nom-là. S'il va pas en cour, il peut faire ce qu'il veut avec ce nom-là.
Ben, il peut faire ce qu'il veut. Je suis pas certaine qu'il peut faire ce qu'il veut.
Il peut dire publiquement sur Facebook, il y a machin truc. Moi, je me suis ramassé sur la liste. C'est machin truc qui m'a accusé.
Mais là, la cour dit autre chose.
Mais non, si tu vas en cour, là, son nom est protégé.
Oui, c'est ça.
Mais si tu es sur Facebook, tu peux dire, mais machin truc qui m'a accusé, et je dis, moi, sur Facebook, c'est faux à cause de ça, puis ça, puis ça.
Je suis ton choix.
Comment je te dirais?
Ben, c'est bizarre quand même, ça semble être contradictoire.
Ben, en tout cas, ça se peut.
À l'aide, juriste, à l'aide.
À l'aide, oui, mais peut-être. Mais peut-être aussi que la personne peut se revirer de bord puis te poursuivre en diffamation. Puis là, on est dans une escalade, là, tu sais, qui dit la vérité dans ça.
Ouais.
Merci à tous les deux.
Merci.
À demain, vendredi.
C'est 23.